C'est lundi et comme tous les lundis, c'est avec plaisir, il est avec nous. Salut Raphaël.
Salut à tous.
Alors tu vas pas me refaire la même qu'il y a 15 jours ? Ah ouais, d'accord.
Pas tout à fait. Non mais vous cherchiez beaucoup à l'époque, on vous pardonne.
Histoire bref, t'es chaud ?
C'est parti.
On y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ? Histoire brève, histoire brève.
Je vois tout de même que vous êtes fait beau ce matin, monsieur de Paris. Ah, mais je comprends pourquoi. Je vous exhibais votre splendide Rolex en or au poignet. Comme le disait Jacques Segala, c'est la preuve que vous avez réussi votre vie. Ah, mais je comprends. C'est votre grande richesse qui vous a permis d'acheter aussi la particule qui introduit votre nom, monsieur de Paris. Ah. Et Paris est un clin d'œil à votre source d'enrichissement, puisque je crois que vous êtes un grand joueur. Et par extension, un grand parieur, monsieur de Paris. Votre nom est donc un pseudonyme. Est-ce que c'est pour vous cacher du fisc, les immenses gains que vous récoltez lors de vos nombreuses visites à Monaco ? Où se trouve d'ailleurs votre résidence secondaire, je crois ?
Exactement.
Hein, vous êtes découvert, monsieur de Paris. Mais savez-vous vraiment comment Monaco est devenu ce paradis que nous, enfin, que vous connaissez si bien ?
Ouais, que je connais si bien, ouais. J'y vais tous les week-ends.
Alors, pour comprendre ses origines, remontons au fil du temps. La principauté de Monaco est née en 1297, au moment où la famille des Grimaldi est chassée de la grande cité voisine de Gênes. Après de nombreuses contestations, le placement de la principauté sous les tutelles espagnoles ou françaises, Monaco suit son chemin malgré ses quelques péripéties. Nous retrouvons Monaco en 1792, au moment de la création de la Première République, qui décide d'annexer cette petite enclave territoriale, qui est alors intégrée par la suite au département des Alpes-Maritimes. La cité monégasque en devient même la sous-préfecture. Il faut attendre le congrès de Vienne et la chute du Premier Empire en 1815 pour que Monaco retrouve son indépendance. Mais les vainqueurs de Napoléon, pour être sûrs que les Français ne refassent pas les vilains avec Monaco, décident dans leur grande sagesse de placer la principauté et ses dépendances, Roquebrune et la ville de Menton, sous la protection du royaume de Sardaigne. La petite principauté abrite alors 8200 habitants et recouvre une surface de 24,5 km². Elle tire alors l'essentiel de sa richesse de l'agriculture, notamment grâce à sa vaste plaine de Menton qui lui assure une bonne production d'olives. Mais en 1847, c'est la catastrophe. Le prince Florestan Ier crée une taxe sur les agrumes. En plus, l'année suivante, 1848, la France renverse la monarchie de Juillet et proclame la Deuxième République. Il n'en fallait pas plus pour que les deux communes de Roquebrune et de Menton fassent sécession. Ce faisant, Monaco perd 85% de sa population, plus de 90% de son territoire et l'essentiel de ses revenus. La principauté devient alors l'État le plus pauvre d'Europe. Menton et Roquebrune sont quant à elles rattachées à la France en 1860. La situation est catastrophique pour Monaco, d'autant plus que les 150 hectares de la principauté ne sont pas du tout fertiles puisque Monaco est bâti sur un rocher. Mais Florestan a plus d'un tour dans son sac. Sur les conseils de sa maman, il décide d'ouvrir à Monaco un casino qui peut s'avérer d'autant plus attractif que la France a interdit en 1837 les jeux d'argent. En 1856, il est donc décidé de construire ce premier établissement sur l'aride plateau des Spélugues qui surplombe la ville. Le succès est immédiat, si bien qu'entre 1856 et 1859, on construit à côté de ce casino des hôtels, des villas, des jardins et même une ligne de tramway qui relie Monaco à Nice pour faire venir toujours plus de clients. En 1863, le prince Charles III, successeur de Florestan, confie la gestion de tous ses biens à la Société des Bains de Mer, SBM, et du Cercle des Étrangers, qui gère encore aujourd'hui les casinos de Monaco. François Blanc, premier administrateur de cette société, conseille à ce moment-là à Charles III de rebaptiser le plateau des Spélugues, car ce mot ressemble à Spelunk, en allemand qui signifie « établissement douteux », ou encore à Spelunk, en ancien français qui veut dire « coupe-gorge ». C'est pourquoi ce rocher est rebaptisé Monte Carlo en l'honneur de ce prince Charles III. Pour François Blanc, ce qui attire les élites, ce n'est pas tant la douceur du climat comme à Nice, ou les bains comme à Brighton ou à Deauville, mais bien les ors de son casino. Pour optimiser les entrées de devises étrangères dans les caisses du casino, une loi promulguée au moment de la naissance de la SBM interdit même aux citoyens monégasques de fréquenter les casinos de Monte-Carlo. Et cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Ajoutons au développement des lieux de jeu des stratégies fiscales qui permettent d'attirer toujours plus de capitaux étrangers et nous comprenons mieux comment ce rocher de Monte-Carlo est parvenu à transformer la pierre en or.
Mon hélicoptère est sur le stade, je vais à Monaco de ce pas. Merci beaucoup Raphaël. On se voit dans 15 jours.
À dans 15 jours.